Nous allons lire dans 1 Jean, au chapitre 2. Père éternel, nous prions que tu nous conduises dans toute la vérité. Nous avons soif de t'entendre. Toi, le Dieu vivant, le Dieu sauveur, le Dieu d'éternité, béni soit ton nom. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. 1 Jean, au chapitre 2. À partir du verset 15. Nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, la gloire de ce monde passe, et sa convoitise aussi. Ça veut dire que non seulement le monde passe, non seulement ce qui attire la gloire de ce monde, c'est ce qui attire, ce qui fait la valeur de quelque chose, c'est ça la gloire. Non seulement ça, ça passe, mais il y a aussi la convoitise par rapport au monde qui passe. Quelqu'un qui vieillit va diminuer en convoitise dans certains domaines. Quelqu'un qui n'a plus d'argent, il va diminuer en convoitise dans certains domaines. Donc non seulement que la gloire de ce monde passe, c'est-à-dire ce qui fait la valeur, la fierté, ce qui attire, non seulement ça, ça passe, même l'envie aussi de ces choses-là, ça aussi, ça va passer. Un mort n'a plus envie de rien. Voilà. Donc, la gloire de ce monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous allons parler de la gloire de ce monde. La gloire, comme je l'ai dit, c'est ce qui fait la force de quelqu'un, c'est ce qui fait sa fierté, c'est ce qui brille, c'est ce qui manifeste une certaine puissance, qui nous donne une certaine assurance, c'est ça la gloire. Quand on dit quelqu'un qui est dans la gloire, ça veut dire qu'il brille, il attire, il a beaucoup de richesses, il a de la force. C'est ça la gloire. Et on peut même être dans la gloire personnelle. C'est-à-dire que les gens ne nous voient pas dans la gloire, mais nous-mêmes, on se voit dans la gloire. C'est toujours la gloire quand même. Et nous lisons dans le livre de Daniel, pour prendre un exemple, au chapitre 4. Nous prenons l'exemple d'un roi. Et pour beaucoup de gens, ils sont rois pour eux-mêmes. Beaucoup de gens sont rois pour eux-mêmes. C'est pourquoi nous prenons l'exemple directement d'un roi. Daniel 4. C'est un roi qui parle. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Donc fais comme si Nebuchadnezzar te parlait à toi. Parce que je vais relire. Il dit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue. Donc fais comme si Nebuchadnezzar parlait à toi. Bien sûr, quel que soit ton âge. Je recommence. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre. Donc c'est vraiment chacun d'entre nous, tous les hommes de l'humanité. Que la paix vous soit donnée avec abondance. il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, comme notre sœur venait de témoigner aussi. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Donc nous allons au verset 10. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, et sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Donc ça doit être un ange. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fouillent de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe et la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, c'est-à-dire Daniel, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit de Dieu Saint. Voilà ce que Nebuchadnezzar a eu comme songe. Il y a un arbre qui était tellement grand qu'on le voyait de toute la terre. Et son feuillage nourrissait l'humanité. Et à un certain moment, un ange, un de ceux qui veillent, c'est-à-dire les gens qui ne dorment pas, les anges, il descend, il dit, abattez l'arbre, abattez l'arbre. Mais vous laissez le tronc, vous enchaînez le tronc et la partie avec les racines, vous enchaînez ça, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins et de bronze. Et on dit, ce qui est curieux, c'est qu'à la fin, on dit au verset 16, « Son cœur d'homme lui sera ôté. » Donc, il y a déjà un indice pour interpréter le songe. C'est que cet arbre-là, en réalité, c'est un homme. Et nous allons écouter l'interprétation qu'en fait Daniel au verset 19. « Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont le sommet s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. » Verset 24. « Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine et dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà, Daniel interprète le songe au roi. Il dit, mais c'est toi l'arbre qui est devenu beau, qui est devenu fort, qui est devenu grand, au point d'impressionner toute la terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, aucun d'entre nous n'est dans cette configuration-là de Nebuchadnezzar, être un grand arbre qui impressionne toute la terre. Aucun n'est dans cette configuration-là. Mais on peut l'être pour soi-même. Pour quelqu'un qui est dans l'orgueil, son monde, c'est lui-même. Il se voit lui-même comme étant le monde entier. Et de ce fait, il peut commencer à considérer les choses comme les Nebuchadnezzar. Être puissant, grand. Et c'est écrit dans la suite, au verset 28, « Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Voilà ce qui s'était passé. Le monsieur, malgré l'avertissement, il a quand même un jour regardez, c'est ça qu'on appelle la gloire. Il a regardé ses possessions. Verset 30. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Et certains d'entre nous, la plupart d'entre nous, parfois, certains regardent leur passé. Ils se glorifient dans leur passé. Il y en a qui regardent leur voiture, leurs biens. Il y en a aussi qui regardent leur spiritualité. « Ah, je prie beaucoup !» Chacun a un sujet. Il y en a aussi, sans que les autres les élèvent, eux-mêmes ils s'élèvent. Ils se regardent lui-même. Vous savez, quand on était très petit, moi je jouais avec mes doigts. Je considérais que chaque doigt c'était un humain. Et donc, c'est pour nous dire que l'homme est capable de s'imaginer des choses, se croire tout puissant. Il croit que ce qu'il pense, c'est ce qui va se réaliser. Et tu peux être là, tu penses à toi-même, tu regardes à tes enfants, tu regardes à ton corps, tu regardes à tes biens, tu regardes à ton diplôme. Tu regardes ta position dans l'église et tu es là comme le roi Nebuchadnezzar. Oh, n'est-ce pas ça que je me suis bâti avec ma propre force? Maintenant, on ne le dit pas forcément avec la bouche, mais on peut le dire avec la pensée, avec le cœur, avec la respiration humaine. On peut penser comme Nebuchadnezzar. Mais tout ça, c'est la gloire de ce monde. Nebuchadnezzar était face à sa gloire, mais c'était la gloire de la terre. Et cette gloire passe. Le monde passe. Ce qui fait la force des humains, ça passe. Ce qui fait leur gloire, ça passe. Mais Dieu demeure éternellement. Tu peux regarder ton compte bancaire et sourire pendant 5 minutes. Mais un jour, ça passera. Vous savez, le jour où on reçoit le salaire, on sourit. Rendez-vous dans 20 jours. Les questions commencent. Mais le jour, il y a des sommes, quand on les reçoit, tu as l'impression que ça ne finira jamais. Tu te dis, mais comment, on ne s'imagine pas comment on peut dépenser ça. Mais oui, Michael Jackson a fini endetté. On se regarde à soi, mais on dit, ah, c'est glorieux. Quand tu es face à un bon plat, un gros hamburger, tu as l'impression que le monde s'arrête là. Mais non! Tu vas manger et 2 jours après, tu vas avoir faim. Tu vas passer encore devant, avoir envie de manger. La gloire de ce monde passe. Ce n'est pas quelque chose qui reste. Alors, si tu t'es attaché à ça, Dieu veut te dire comme Nebuchadnezzar, humilie-toi. Ne t'accroche pas aux choses qui passent. Accroche-toi à Dieu. On peut se regarder dans la jeunesse. Vous savez, quand on est jeune, même quand quelqu'un est plus vieux que toi de 2 ans, on a l'impression qu'il est vieux déjà. Quand on a 12 ans, 10 ans, ou 6 ans, 7 ans, dès que quelqu'un est plus âgé, on a l'impression qu'il est vieux. Donc on se trouve soi-même très jeune, très beau, très propre. Mais même ça aussi, ça va passer. Rendez-vous dans 60 ans. La gloire de ce monde passe. Il faut s'attacher à Dieu. Et Nebuchadnezzar, c'est lui arrivé. On a dit, abattez l'arbre. Il est devenu fou. On l'a envoyé en forêt. Il a fait 7 ans en forêt. Et la 7e année, il s'est humilié. Dieu l'a rétabli roi. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il réserve le même sort à tous les humains. Si tu refuses Dieu, tu connaîtras le sort de Nebuchadnezzar. D'une manière ou d'une autre. Vous savez, nous aussi, nous refusions Dieu autrefois. Un jour, il nous a montré qu'on n'était rien du tout. Et tu as connu la forêt. Jusqu'au jour où tu dis, Seigneur, c'est moi qui suis petit, toi tu es grand. Mais quand on a la force, on a l'argent, on a l'intelligence, on se croit le plus beau, le plus fort. Et on regarde ce qu'on est. Il y en a même qui ont le langage suivant. Moi, c'est dans mes principes. Donc quand il regarde ses principes, il se prend pour Dieu. Moi, c'est mes principes. Il y en a qui disent, moi, quand j'avance, je ne recule jamais. Comme ici, ils étaient un bulldozer. Mais un jour, tu vas rencontrer un vrai bulldozer. Tu vas comprendre que toi, tu es un humain. C'est le vrai bulldozer qui est en face. Un jour. Un jour. Tu vas rencontrer un plus fort. Et ta gloire va passer. Vous n'avez pas entendu quand on était jeune des justiciers, soit dans le quartier, soit à l'école, quelqu'un qui faisait régner la loi. Mais un jour, il s'est fait taper par quelqu'un d'inconnu ou de plus petit, sa gloire est finie. La gloire de ce monde passe. Mais ceux qui s'attachent à Dieu demeurent éternellement. Nous avons connu beaucoup de gens glorieux, des footballeurs, des musiciens, des pasteurs, des chantres chrétiens. Mais un jour dans leur vie, ils se sont comportés comme Nebuchadnezzar. Et Dieu les a envoyés en forêt. Certains en sont revenus, d'autres pas. La plupart ne sont jamais revenus. Ils sont restés dans la perdition jusqu'au bout. Nous connaissons les Michael Jackson et d'autres de ce genre-là, les Whitney Houston. Ils ne sont jamais revenus. Ils sont partis en forêt une fois pour toutes. Mais Nebuchadnezzar, lui, s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a ramené et lui a donné sa royauté. Alors, Dieu t'invite aujourd'hui à t'humilier. Même quand tu te crois fort, tu sais bien que tu n'es pas vainqueur, tu n'es pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors humilie-toi, Dieu te donnera la vraie royauté, celle du ciel qui ne passe pas. C'est ce qu'il nous propose aujourd'hui. Notre gloire et force, ce n'est qu'une apparence. Que ce soit la jeunesse, que ce soit l'argent, que ce soit l'orgueil, que ce soit la colère, ça semble nous donner une certaine force, mais ce n'est qu'une apparence. Bien-aimé, vous avez connu Lance Armstrong, non? 7 ans champion du Tour de France, 7 ans successifs. Record immense. Il en est arrivé à faire démissionner le directeur français de l'agence antidopage. Lui qui est un Américain. Mais vous savez, quand quelqu'un est glorieux, il est puissant. Il arrive, pour nous, Sarkozy, c'est notre président, on le craint. Mais lui, pour Sarkozy, il est un dieu. Et Sarkozy fait tout pour le voir, pour le recevoir. Mais quand il sort, il dit à Sarkozy, il faut me coincer, le directeur de l'agence de dopage, il m'a embêté. Et le monsieur se retrouve coincé et il démissionne. Vous voyez la gloire qu'avait cet homme-là. Mais tout ça a fait pchit. Ça s'est tombé d'un coup. Parce qu'il a rencontré un plus fort, quelqu'un qui lui a dit, petit, je vais régler ton compte. Et lui a montré un dossier de 1000 pages. Et aujourd'hui, il est où? Dans la forêt. La gloire de ce monde passe. Les gens qui connaissent un peu le cyclisme, vous avez dû entendre parler de Bernard Hinault, 5 fois aussi champion du Tour de France. Mais aujourd'hui, si tu vois Bernard Hinault, il est incapable d'utiliser un vélo. Il dit, il n'en a même pas envie. Il a grossi. Ce n'est plus la même personne. La gloire de ce monde. Ça passe. Nous lisons, nous prenons 4 points pour synthétiser les choses. Premier point, c'est l'argent. Tout ce qui fait notre gloire, il y a l'élément le plus important, c'est les possessions, l'argent, les richesses. Lisons dans Luc 12. Luc 12. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc 12, au verset 13? Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Cet homme qui regardait toute sa richesse, il a dit, « Oh, je ne veux plus travailler. Je ne veux plus travailler. Je vais amasser tout ce que j'ai un jour. » et je vais chaque jour manger, boire et dormir. Mais comme on avait dit à Nebuchadnezzar, une voix lui dit, insensé, la voix de Dieu lui dit, mais tu es fou. Tu crois, qu'est-ce que tu crois? Que les choses de la terre, on peut les gérer, les contrôler. Tu es fou, on l'appelait insensé. Aujourd'hui même, tu vas mourir. Parce qu'il y a quelqu'un qui préside sur l'univers, qui domine, c'est Dieu. Et quiconque veut prendre sa place, Dieu lui montrera, comme il a dit à Nebuchadnezzar, ainsi tu sauras que c'est l'Éternel, le Très-Haut, qui domine sur toute la terre. Et donc quand lui faisait, il haussait les épaules en disant, ah c'est bon, j'ai beaucoup d'argent. On lui a dit, mais tu as beaucoup d'argent, mais est-ce que tu peux créer la vie? Tu ne peux pas créer la vie. Où se trouve Schumacher aujourd'hui? Est-ce que l'argent et la gloire ont empêché cet accident? Mais non. Dieu montrera toujours que c'est lui qui est Dieu. Ça n'a pas empêché. Que l'argent ne nous trompe pas, que les richesses ne nous trompent pas, que la sécurité sociale en France ne nous trompe pas. Tout ça va passer. Les gens qui ont vécu les années 80 en France se sentent malheureux aujourd'hui de voir combien tous les avantages sociaux sont en train de baisser, et ça va aller toujours plus loin. Les années 70 vont devenir un passé glorieux pour beaucoup de gens. On se disait, mais oh, autrefois en France, on avait ceci, on avait cela. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, les Espagnols sont dans l'immigration illégale. Où? Au Maroc. Moi, quand j'étais au Maroc étudiant, qu'est-ce qui se passait? Les Marocains et les étudiants subsahariens faisaient tout pour aller en Espagne chercher du travail. Ils prenaient le risque même de mourir sur des barques. Mais aujourd'hui, qui peut croire ça? Aujourd'hui, c'est les Espagnols qui vont chercher du boulot au Maroc. C'est une folie, bien aimé. Vous ne pouvez pas imaginer, quand nous, on était au Maroc, étudiants, comment tout le monde, les Marocains faisaient tout pour aller en Espagne chercher du travail. Mais aujourd'hui, la roue a tourné. La gloire de ce monde passe. Dernièrement, les Suisses s'en sont attaqués aux Français, aux Allemands, aux Italiens, pour dire, nous ne voulons pas, vous êtes en train de venir immigrer et travailler chez nous. On ne veut pas de vous. Le monde tourne. La gloire de ce monde passe. Si tu te réfugies sur tes richesses, sur l'argent, tu te trompes. Parce que comme on a lu dans 1 Jean 2, hein, on peut même t'enlever l'envie. C'est-à-dire que quand tes bras sont coupés, quelle envie tu auras maintenant pour conduire un véhicule? Voilà. C'est Dieu qui est tout-puissant. Ce ne sont pas tes richesses. Les choses peuvent disparaître. Et Dieu nous dit, ça passe. Le monde passe. Autant s'attacher à ce qui ne passe pas. Dieu ne passe jamais. Et dans les richesses, il y a tout. Il y a le pouvoir. Il y a le succès. Tout ça va passer un jour. Quand on était jeune, on entendait parler d'un certain Warren Beatty. On disait que c'est l'acteur américain qui est sorti avec le plus grand nombre de femmes. Mais 10 ans après, on apprenait qu'il se faisait virer par les femmes maintenant. Le succès était fini. Le monde passe et la convoitise aussi de ce monde passe. Tout ce qui fait ta gloire matériellement parlant, ça va passer. Ou ça va te décevoir. La Bible appelle ça même des richesses injustes. Ça va te décevoir un jour. Tu t'appuies sur tes enfants, un jour ils vont te décevoir. Tu t'appuies sur un homme ou une femme, un jour ils vont te décevoir. C'est pourquoi c'est écrit, maudit quiconque se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en Dieu. Amen. Parce que Dieu ne trahit jamais, il ne déçoit jamais, il est fidèle. Il est droit. Il est amour. Que ceux qui se confient en l'argent se détrompent. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit aux riches de ce siècle que leurs richesses sont rouillées. En réalité, si vous les voyez, Dieu nous ouvre les yeux. On verra que c'est rouillé. Ce n'est qu'une question de temps. Mais autant s'attacher aux richesses célestes. C'est pourquoi le Seigneur, il nous exhorte, il nous travaille pour que nous sachions nous libérer de l'argent parce que c'est quelque chose qui va nous tuer, qui va nous donner une impression de puissance, de gloire. C'est faux. Ce n'est pas glorieux. Vous pensez que l'avion qui a disparu, est-ce qu'il y a eu un sort différent pour les gens qui étaient en première classe? Il n'y a pas eu un sort différent. Les gens qui étaient en première classe ont eu le même sort que les gens qui étaient en classe économique. Il n'y a pas eu de sort différent. Vous savez, il y a des avions où la différence de prix entre la classe économique et l'autre, c'est parfois trois fois. Mais quand il y a un accident, vous êtes à la même enseigne. Tout ça, c'est rien. Le deuxième point concernant la méchanceté. Vous savez, la méchanceté, c'est aussi une force. Hein? Vous savez, quand quelqu'un est méchant, il se sent fort aussi. Parce qu'il est capable de faire le mal que les autres ne peuvent pas faire. Vous savez, il y a bandit et bandit. Il y a délinquant et délinquant. Et parmi les délinquants, les plus méchants sont aussi ceux-là qui se sentent glorieux. Parce qu'ils sont capables de tuer un policier, mais toi, tu n'es pas capable. Et donc, en cela, ils se sentent glorieux. Ils se sentent forts. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, il a l'impression qu'il est plus fort qu'avant. Or, ce n'est qu'une impression. Les petits chiens, quand on passe, leur maître ou leur maîtresse les promène. Vous voyez un petit chien qui crie, qui veut te suivre, qui veut t'attaquer. Ou bien il y a un monsieur qui passe avec un gros chien et un autre qui passe avec un petit. Le petit veut qu'on le lâche pour qu'il aille attaquer le gros chien. Donc la colère donne une impression de force. Mais en réalité, Dieu dit, mais un jour la colère va finir maintenant, tu vas faire comment? Même la colère aussi, ça passe. Tu deviens normal, mais quand tu es devenu normal, tu es en prison. Maintenant, la colère n'arrive plus à te faire sortir. Mais qu'est-ce qui m'a pris, voilà. Dans ta colère, tu injuries le policier, tu gifles le policier. D'accord. Il est plus petit que toi en taille. D'accord. Mais lui, c'est un policier. Outrage. Un fonctionnaire de l'ordre public. Et quand tu te retrouves, déjà rien qu'en garde à vue, la colère est déjà finie. Mais maintenant, tu ne peux plus sortir. Tu n'as pas suffisamment de colère pour casser les barreaux. Tout est parti. La colère qui t'avait donné la force de taper le policier, tu n'as plus. Et c'est trop tard. Vous savez, la méchanceté et la colère sont aussi des forces. C'est pourquoi c'est écrit dans Jacques 1:20. Nous allons lire Jacques 1:20. Jacques 1:20. Il est écrit ceci, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On peut lire même le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc ce verset veut nous dire que même quand ta colère te donne l'impression que tu es fort, ça ne va rien changer à la suite des événements sur la terre. C'est Dieu qui préside à la suite des événements sur la terre. Vous savez combien de dictateurs africains énervent les gens? Donc, rien qu'en passant à la télé, ils reçoivent peut-être 1 million d'injures. Donc, dès que le dictateur passe à la télé, ceux qui sont en train de regarder la télé, donc si on était à 5, 4 l'injurient déjà d'un coup. Mais malgré ça, le dictateur est toujours là encore. Combien de personnes injurient les dictateurs? Une fois, j'étais dans un pays, dès qu'il est passé avec son cortège, les jeunes filles qui étaient à côté là, elles ont tout de suite chippé quoi. Tout le monde s'énerve, voilà. À cause de lui, il y a des embouteillages. Les gens s'énervent, les gens se fâchent. Mais 5 ans plus tard, le même dictateur est toujours là. Donc la colère des humains ne va pas changer la suite des événements. C'est Dieu qui préside à la suite des événements. Donc je vous donnerai un grand conseil. Ne jamais rien faire quand vous êtes en colère. Quand vous êtes en colère, liez-vous physiquement. Et fermez votre bouche. Ne jamais rien faire quand vous êtes en colère. C'est le plus grand piège. C'est plus que la drogue. Il y a des drogues qui donnent ces sensations-là de puissance. Mais la colère, c'est plus que la drogue. La colère t'enlève toute crainte, toute peur, toute analyse. Tu n'analyses plus rien. C'est elle qui commande. Et tu es d'autant plus entraîné qu'elle te donne une certaine force. Voilà, elle te donne une certaine force et elle t'enlève tous les freins. Et tu te lances. Mais quand tu t'es lancé, c'est comme un corps qui tombe. Tu ne peux pas freiner. Dès que ça commence à tomber, ça tombe. Il faut que quelqu'un d'autre vienne arrêter le corps. Mais de lui-même, il ne peut plus. Il est parti. Conseil, ne jamais rien faire sous le coup de la colère. Deuxième conseil, arrêtez avec la méchanceté. Haïr les autres, jalouser les autres. Considérez, vous savez, la méchanceté en général vient du fait que la personne se sent injustement traitée par Dieu. Mais il ne le dit pas. Il trouve que les autres sont mieux traités, les autres ont des enfants, les autres ont de l'argent, les autres ont ceci, les autres ont cela, les autres ont beaucoup de cheveux. C'est toujours les autres et ça crée une certaine méchanceté. On commence à haïr les gens, à détester. Parfois, on ne se le dit pas parce qu'on est honteux. De jalouser. Mais ça fonctionne quand même dans le cœur. On n'a pas encore pris la décision de dire « Je m'occupe de mes affaires. » Pour cesser avec la méchanceté, il faut prendre la décision de dire « Je m'occupe de mes affaires. » J'arrête de m'occuper des affaires des autres. Je m'occupe de mes affaires. La méchanceté est beaucoup liée au regard qu'on a sur les autres. Parce que si on est seul dans la chambre, on va être méchant envers qui? Mais c'est lié aux autres. Alors pour sortir de la méchanceté, il faut dire maintenant, je m'occupe de moi. Je m'occupe de ma vie. Je m'occupe de ma relation avec Dieu. Mais on est là sans cesse à dire, mais lui, l'autre, il prie couramment. Moi, j'ai du mal à prier comme lui. Lui, il fait ceci, mais moi, j'ai du mal. Et ça crée des choses. La jalousie, voir, mais les autres sont mieux. Non! Il faut apprendre le contentement. Se contenter de ce que Dieu te sert, de ce que Dieu te donne. Et tu peux être heureux avec ce que Dieu te donne. Méchanceté, colère, orgueil sont des choses qui font la gloire de l'homme. Il faut arrêter avec ça. Vous savez, la personne qui est méchante se sent aussi glorieuse. Parce que la colère lui donne une impression de force. La haine lui donne une impression de force. Mais ce n'est pas bon. Et c'est faux. Ça ne va pas changer le cours des événements. C'est Dieu qui décide sur le cours des événements. Au contraire, ce qui est acquis, ce qu'on sème, on récolte ça. Tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Il faut semer l'amour, la bonté. Maintenant, peut-être que tu as des difficultés à entrer dans cet amour pour le moment, mais évite au moins de regarder aux autres, de les juger, de te comparer, de faire un problème que les autres soient bénis. Occupe-toi de tes affaires. Commence par ça, et puis l'étape de l'amour viendra par la suite. Mais commence par t'occuper de tes affaires à toi. Troisième élément, c'est la jeunesse. C'est écrit dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Donc, jeune homme, jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Quelle comparaison, hein? Jeunesse et le matin. La jeunesse et le matin, c'est de la vapeur, c'est zéro. Le matin, il arrive, vite il passe, on arrive le soir. Donc la jeunesse et l'aurore sont vanité. La plupart d'entre nous, nous avons même des souvenirs encore quand nous avions 12 ans, 13 ans. C'est comme si c'était frais, mais c'est passé si vite, comme le matin passe très vite. Sache que tu seras appelé en jugement, même si tu es jeune. Dieu te jugera. Que la jeunesse ne soit pas une excuse pour toi. Parce que ça n'en est pas une pour Dieu. Tu es jeune, d'accord, mais tu es conscient, tu es intelligent. Tu peux prendre les bonnes décisions. Prends les bonnes décisions. Ne te trompe pas par des fausses illusions en te disant que jeunesse rime avec légèreté et Dieu ne tient pas compte de ce que font les jeunes. C'est faux. Dieu en tient compte. Il dit, fais ce que tu veux, jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que tu veux. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sonnez le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ne te méprends pas sur Dieu. Dieu te considère comme responsable. Même si dans le pays, on te considère comme irresponsable, mais Dieu, lui, te considère comme responsable. Tu sais ce que tu fais. Cette impression-là de jeunesse-là, ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas une réalité. Parce que le temps passe vite. Ceux qui ont 80 ans aujourd'hui avaient aussi ton âge un jour. Mais ça passe vite. Comme l'aurore, la jeunesse et le matin et l'aurore ne sont que vanité, c'est-à-dire c'est rien du tout, ce n'est qu'une apparence. Nous ne sommes qu'une vapeur, comme dit Jacques, la vapeur sort et elle disparaît. Nous clôturons avec Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. C'est quoi leur récompense qu'ils ont? Mais ils ont été regardés par les hommes. Ils ont été acclamés par les hommes. Ils ont déjà leur récompense, donc ils n'en auront pas au ciel. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, afin que vous le lui demandiez. Beaucoup de gens, là-bas, on se lève à 2h du matin, on taille les démons. Même. Demain, il a encore mal au cou toujours. Il croit qu'en multipliant les paroles, c'est là que les démons fuient maintenant. Mais beaucoup de gens aussi parlent. Il y a des théâtres sur la terre. Est-ce que les démons fuient ça? Non. C'est la vraie prière faite dans la foi en Jésus-Christ. En disant des paroles que tu comprends, en disant des paroles que tu prends au sérieux. Ce n'est pas le flot des paroles qui change la chose. C'est ton sérieux dans ce que tu dis qui compte. C'est la foi qui fait la différence. Alors, nous clôturons en parlant de l'orgueil par rapport aux choses de Dieu. Beaucoup sont dans cette gloire-là. Je suis diacre, je suis pasteur, je suis prédicateur, je prie beaucoup, je chante. Mon père est pasteur. Tout ça, c'est zéro. Ce qui est important, c'est que ton cœur soit à Dieu. C'est ça qui est important. Je prie beaucoup. Tout ça, ça passera. Au ciel, on ne priera plus. Quand tu vas mourir, tu ne prieras plus. Notre église est belle. Ce sont des erreurs. On présentait à Jésus, on disait, mais regarde le temple. Comment il est beau. Jésus dit, oh, ne vous en faites pas. Dans quelque temps, il n'y aura même pas une pierre, pierre sur pierre, dont tous les murs seront rasés. 70 ans après, le temple a été rasé. On a une belle église, on a un bon pasteur, tout ça c'est zéro, ça va passer. Mais Dieu, lui, ne passe jamais. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Toute la gloire de la terre, ça passe. Ça passe. Même quand on semble être supérieur aux autres, cette supériorité-là ne sera jamais éternelle. Un jour, tu vas te retrouver par terre. C'est ça mon exhortation aujourd'hui. Qu'est-ce qui te retient? Quelle gloire terrestre te retient pour te livrer totalement à Dieu? Est-ce ta maison? Est-ce le fait que toi et ton mari, vous avez des CDI et tu te sens fort comme ça, forte comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à tout lâcher et suivre le Seigneur? Quelle est cette gloire que tu as que tu ne veux pas lâcher? Parce que qu'est-ce qui empêche les gens de tout lâcher et suivre le Seigneur? C'est qu'ils se tâchent à une gloire. Ils ne veulent pas lâcher une gloire. Parce que le Seigneur a dit dans Ésaïe 42, 8, il donnera sa gloire à personne. Donc quand le Seigneur t'appelle, il veut que toutes tes gloires, tu les déposes, tu les lâches, et que tu le suives, et que tu bénéficies de sa gloire à lui, pas de ta gloire, mais de sa gloire à lui. Et donc quand nous voyons les gens traîner pour suivre le Seigneur, ou bien être lents à suivre le Seigneur, c'est qu'ils ont des gloires qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils ont des gloires. Lâche ta gloire. Lâche cette gloire et suis le Seigneur. Alors voilà, je vais présenter ce que nous avons choisi. C'est le psaume 131. Comme notre grand frère dans la foi, David, nous avons choisi le psaume 131. Cantique de degré de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Je ne m'occupe pas de ce qui est élevé, de ce qui est grand, de la gloire, du succès. J'ai dit aux frères dans la foi, je dis, frère, ne cherchons pas le succès. Prêchons l'évangile, sauvons les âmes. Tout ça, c'est rien. Vous avez entendu parler d'un de nos aînés qui nous a précédés, qui a été un exemple pour beaucoup à une certaine époque. Aujourd'hui, il vient d'être arrêté en Corée, Yonggi Cho. Ça nous fait mal. 50 ans de ministère. On a même, le juge même a été clément, parce que même le juge était reconnaissant de ce que cet homme avait fait comme apport en Corée à travers l'œuvre de Dieu. Mais toujours l'évangile de la réussite, l'évangile de la prospérité. Voilà où ça mène, au point que tu détournes l'argent de l'église. Parce qu'il ne voulait pas quitter l'évangile de la prospérité, l'évangile de la réussite. On veut réussir sur terre. On veut la gloire des hommes. Pourquoi? Au ciel, nous serons éternellement avec Dieu dans la gloire. Pourquoi s'accrocher à 120 ans qui passent si vite? Faisons comme David. Je suis comme un enfant. Un enfant dans les bras de sa maman. Qui ait la guerre, qui ait pas la guerre. Vous savez, une maman, quand elle met au monde un enfant, que ce soit pendant la guerre, que ce soit pas pendant la guerre, pour elle, son enfant, c'est un roi. Voilà. Que ce soit dans un pays pauvre, que ce soit dans un pays riche, voilà. Un tel enfant est béni parce qu'il est dans les bras d'une personne qui le considère comme un roi. Lui, il est au courant de rien. Mais il est en sécurité parce que la personne qui la le porte ne tient pas compte que c'est la guerre, ne tient pas compte du fait que demain ils savent pas ce qu'ils vont manger, mais la personne qui porte ce bébé-là considère que ce bébé-là c'est toute sa richesse. Ça c'est beau, mais c'est ce que Dieu pense pour nous tous. Il veut nous porter et nous sommes toute sa richesse. Il le dit lui-même dans Luc au chapitre 15. Dans Luc au chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Encore une autre parabole. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, 10 pièces, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors que Dieu soit ainsi, imaginez-vous que nous sommes comme cette pièce qui a été perdue. Pourquoi ne pas rester comme cette pièce-là? Moi, je préfère être comme... Entre être à la place de la dame et de la pièce, vous choisissez quoi? Moi, je préfère la place de la pièce. Parce que la pièce, c'est, tranquillement, elle s'est perdue. Mais c'est la dame qui cherche, qui cherche, qui cherche, qui cherche, qui... Elle aime sa pièce. Et donc, dès qu'elle la trouve, elle invite des gens. Quelle place d'importance! Alors, beaucoup d'entre nous préfèrent être la dame, commencer à chercher, à se fatiguer. David nous propose d'être la pièce. David nous propose d'être la brebis. Il nous propose d'être l'enfant dans les bras de la maman, en sécurité totale, en paix. Il est écrit dans Romains 12, ne soyons pas attirés par ce qui est élevé, mais soyons attirés par ce qui est humble. Celui qui s'élève, Dieu l'abaissera. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Il est écrit dans 1 Pierre 5:5, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oublions la gloire de ce monde. Oublions notre fierté. On se sent fort, on se sent... Même quand tu mesures 2,15 m, ça passera. En plus, tu seras un embêtement pour tes parents, pour ta famille, le jour où tu mourras, trouver un cercueil de ta taille, tout ça. Tout ça, ça va passer. Ça va passer. Ta jeunesse va passer. Vous savez, je jalouse les jeunes qui sont dans le Seigneur étant jeunes, quoi. Ils sont bénis. Mais ceux qui attendent, ils ne font qu'alourdir leur fardeau. Et ça peut mal finir. On peut mourir aussi comme... Il y avait des jeunes dans l'avion qui a disparu là. Attention. C'est le jour du salut. C'est le jour de s'humilier devant Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre bien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes tes mains. Oh, to Jesus, I surrender tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, mais si tu veux donner ta vie à Jésus et tout abandonner, nous t'invitons à passer devant. Nous allons faire la prière d'abandon au Seigneur. La prière pendant laquelle tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué de forcer par moi-même. Je suis fatigué de compter sur mes efforts. Je suis fatigué d'aimer les choses de la terre alors que ça va passer. Les choses qui paraissent belles aujourd'hui vont quand même passer parce qu'on a connu des gens qui en avaient, ils sont fatigués aujourd'hui. Je veux être branché sur les choses d'éternité. Si tu es dans ce cas-là, tu passes devant, nous allons prier et les choses vont changer pour toi parce que Jésus, le Fils de Dieu, va te prendre en charge dès aujourd'hui. Alléluia. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang. Oui, oui, il faut passer devant. Et pour moi, et ta voix qui m'appelle, je viens, oh, tel que je suis, bien facile, en proie au tout.
changer.